Bien, eh bien, je crois que nous allons bientôt reprendre. Est-ce que tout le monde est bien installé? Tout le monde a bien mangé? Nous allons donc continuer cet après-midi avec trois interventions. La première sera celle de Geneviève Hayé, ici présente, donc historienne des sciences et techniques et directrice et non directrice adjointe du Centre d'histoire des sciences et techniques de l'Université de Liège. Elle est spécialiste de la médecine monastique et de la diététique au Moyen-Âge et elle a notamment travaillé sur Saint-Jacques de Liège au XIIIe et XVe siècle. Voilà. Et un des derniers, mais pas le dernier livre qu'elle a publié, est sur la médecine et art divinatoire dans le monde bénédictin médiéval à travers les réceptaires de Saint-Jacques de Liège. Et cet après-midi, elle va nous parler des connaissances et pratiques de la médecine en milieu monastique. Nous vous remercions par avance.
Voilà, tout d'abord, je souhaite remercier l'espace MADES France et le CESCM pour leur invitation à cette journée d'études. Alors, en fait, quand on parle de... D'abord, est-ce qu'on m'entend ? Parce que... Oui. Lorsque l'on parle de médecine monastique, des images, des noms se présentent souvent à l'esprit, comme le jardin de simple de l'abbaye de Reichenau, ou aussi la bibliothèque et le plan de Saint-Gall, dont il a déjà été question ce matin. Et là, au centre, j'ai placé un gros plan de ce qui représente le quartier de l'infirmerie. Aussi, on pense à des personnalités comme Hildegarde de Bingen, ou aussi, si un peu moins sérieusement, et pour ceux qui le lisent encore ou qui l'ont encore lu, au révérend père Gaucher en train de préparer son élixir. Mais peut-on vraiment réduire cette médecine monastique à quelques clichés ? En fait, je vais essayer de prouver que non, de montrer que non. En cernant un peu la pratique et le savoir des moines en matière de médecine, pour montrer qu'il s'agit à la fois d'une prise en charge qui est spirituelle, matérielle et médicale et sanitaire de l'infirmus, donc de l'infirme, du faible, qu'il soit vieillard, qu'il soit malade, qu'il soit voyageur également, que cette médecine monastique se fonde sur un corpus de connaissances qui est en partie hérité de l'Antiquité et en partie construit, que la médecine monastique a une particularité, c'est qu'elle est vraiment reconnue par l'histoire, par l'historiographie de la médecine médiévale comme la première phase de cette histoire de la médecine médiévale, de l'Occident médiéval, et que si elle a eu ses siècles de gloire, à peu près du 7e au 12e, avec l'époque carolingienne comme temps fort, elle a été ensuite évincée par d'autres courants de savoir médical qui n'ont pas empêché de connaître des survivances jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, avant de venir vraiment dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de rappeler en deux mots sur quoi se fonde la médecine au Moyen-Âge. Elle met vraiment très, très sommairement. Donc, il y a quelques principes directeurs qui sont que l'organisme humain est irrigué par quatre liquides que l'on appelle des humeurs, enfin des humores, et ces liquides circulent en lui. Ce sont le sang, la bile jaune, le phlegme ou pituite, en gros tout ce qui est liquide issu d'inflammation. Et également un quatrième liquide qui est la bile noire, qui elle est une invention des médecins antiques. Ces quatre humeurs sont pourvues de quatre qualités, mais chacune en a deux qualités. Ces qualités sont le chaud, le froid, le sec et l'humide. Et l'équilibre harmonieux des humeurs dans l'organisme va déterminer la santé de cet organisme. Et donc, l'organisme sera considéré comme malade parce que les humeurs qui circulent en lui sont soit trop épaisses, soit trop liquides ou trop abondantes. Alors, à partir de là, que fait le médecin ? Le médecin donc, a pour mission d'essayer d'abord de détecter dans un corps malade d'où vient le dysfonctionnement au niveau des humorales et d'y remédier en administrant au patient soit des substances qui elles aussi sont pourvues de qualité qui vont rétablir l'équilibre en lui ou alors en provoquant des évacuations. Notamment, ce sera le cas de la saignée. Donc voilà, en gros, ça c'est évidemment très rapidement décrit, mais c'est essentiellement le genre de choses que l'on va retrouver dans les textes médicaux. Alors, d'abord, après avoir un petit peu cerné cette médecine, il faut quand même maintenant déterminer les termini chronologiques de la médecine monastique. En distinguant ce qui est médecine monastique proprement dite de pratique et savoir médical en milieu monastique au sens large au Moyen-Âge. Donc au sens strict, la médecine monastique que l'on désigne aussi souvent sous son appellation allemande Klostermedizin ou Mönchmedizin donc désigne la première phase de l'histoire de la médecine médiévale d'Occident. Elle est liée au développement des grandes abbayes carolingiennes et au transfert des bribes de savoir antique vers ces institutions. Ça, c'est pour essentiellement le terminus ad quem. Pour ce qui est de la fin de cette médecine monastique proprement dite, au XIIe siècle, on assiste à une laïcisation du savoir docte et à son déplacement des cloîtres vers les universités. Notamment avec l'avènement de l'école de Salerne. Mais il y a un autre facteur qui intervient, c'est un facteur d'ordre canonique, puisque à partir du XIIe siècle et alors ça va vraiment trouver son accomplissement au concile de Latran IV en 1215, il va y avoir une interdiction faite aux réguliers de pratiquer finalement la chirurgie et de poser un acte médical qui violente le corps. Alors, ça ne signifie pas que la médecine va cesser dans les monastères, mais elle va quand même, il va y avoir une réorientation des pratiques. Enfin, là, j'en reviens véritablement à ce qui concerne la médecine monastique proprement dite, donc celle du 7e, 12e siècle. D'abord, il faut remarquer que d'un point de vue religieux, l'activité médicale des moines va s'appuyer sur quelques idées clés qui vont légitimer cette pratique médicale. D'abord, c'est le fait qu'il y a une véritable théologie qui va associer la maladie au péché et la guérison à la rédemption et au pardon des péchés, et donc qui va en quelque sorte faire assimiler le malade à un pécheur, mais également à un pénitent, et médecin donc sera quelqu'un qui participera finalement au pardon divin des dits péchés. Alors il y a un autre élément, c'est la figure du Christ médecin lui-même, qui se rapporte évidemment à l'image christique dans les évangiles des miracles, qui sont bien souvent des miracles, des guérisons de malades, et qui eux aussi vont légitimer une pratique médicale de la part de religieux. Il faut d'ailleurs dire que dans les évangiles, bien souvent, quand le Christ guérit un malade, il lui remet en même temps ses péchés. Donc il y a là à nouveau cette assimilation. Enfin, troisièmement, c'est une médecine qui va être pratiquée par charité, avec un modèle, c'est le modèle des saints comédamiens, qui soignent gratuitement et donc qui vont légitimer également une pratique médicale faite comme acte caritatif. Ça, c'est pour ce qui est un peu général. Alors, dans le cadre monastique lui-même, on a évidemment la règle bénédictine qui va se préoccuper des infirmiers. infirmiers du dehors, si je puis dire, donc tous ceux qui ne font pas partie de la communauté monastique elle-même. Là, ils seront intégrés, en fait, le soin aux malades sera intégré dans les bonnes œuvres exigées des moines. Et par contre, les fratres infirmiers, eux, ils sont l'objet du chapitre 36 de la règle. On trouve donc qui va les définir une prise en charge sanitaire beaucoup plus structurée au sein des monastères. Règle monastique qui va être renforcée par les instructions des différents coutumiers qui, eux également, vont donner un peu plus de précision à ce que au précepte de Saint Benoît. Alors, donc, en gros, de quoi va-t-il s'agir ? Bien, il va s'agir de l'établissement d'un lieu spécifiquement aménagé pour accueillir les moines malades. Ce sera l'infirmerie qui sera dirigée par un infirmarius et parfois, selon l'importance de la communauté, un personnel plus nombreux qui sera spécialisé dans certains soins, comme par exemple pratiquer la saignée ou des choses comme ça. Dans l'abbaye, les infirmes, les infirmiers sont confiés à la responsabilité de l'abbé, qui est chef et père de la communauté. Une responsabilité qui se conçoit d'un point de vue spirituel, corporel et médical. C'est d'ailleurs l'abbé qui décide de l'hospitalisation d'un religieux et qui, le cas échéant, décidera si oui, autorisera, oui ou non, l'application de certains traitements. Dans certains cas, d'ailleurs, les abbés sont eux-mêmes ces moines médecins de la communauté. Moine médecin, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, c'est un moine prophète qui a des connaissances en médecine et qui va les appliquer, c'est-à-dire agir à la fois comme médecin, au sens où nous entendons un médecin qui pose un diagnostic et prescrit un traitement, mais également chirurgien et pharmacien. Alors, si on va, puisqu'on est à Saint-Gall, on peut voir que les chroniques de Saint-Gall informent un petit peu de ce que font les moines médecins, qui sont parfois donc les abbés du monastère en matière de médecine, tout en sachant qu'il y aura peut-être une part d'édification dans ce qu'ils disent, et notamment d'assimilation de l'abbé au Christ et qui effectue les mêmes gestes et soigne de la même manière. Voilà, donc ici j'ai une représentation donc dans un manuscrit donc de Saint-Gall, de Saint-Magnus, qui guérit un aveugle par application donc probablement d'un onguent sur les yeux. Mais d'une manière générale, on lit dans ces chroniques que ces abbés, ces moines médecins, abbés parfois, ont établi une léproserie à proximité du monastère, qu'ils soignent les pauvres, qu'ils pansent leurs blessures, qu'ils préparent et appliquent des collyres sur les yeux, etc. Donc on voit qu'il y a évidemment une prise en charge des malades qui est considérée comme un élément important de la fonction monastique, si on peut dire, mais qu'en même temps, il y a probablement une assimilation d'un texte. On n'est pas absolument sûr, évidemment, que ces affirmations ne sont pas aussi une manière d'assimiler l'abbé au Christ. Mais bon, ça, on n'est évidemment pas en mesure de le préciser. À côté de ces activités donc de pansement, etc., on sait que dans les abbayes, on pratiquait les bains. Une manière de soigner, c'était aussi la balnéothérapie. Et si je reviens au plan précédent, on voit donc le quartier de l'infirmerie, c'est la partie bleue du plan reconstitué. Et à côté de la maison des saignées, en fait, il y a tout au-dessus, vous avez. Oui, je vais prendre. Donc, ici, on a le jardin simple. À ce niveau-là, on a la pharmacie et le logement des moines malades. Et ces trois bâtiments-ci représentent en fait une cuisine d'abord, l'établissement des bains et puis l'établissement des saignées, donc qui était prévu sur ce fameux plan de Saint-Gall. Donc la balnéothérapie, qui est une manière qui est héritée de l'Antiquité, et donc qui consiste à faire prendre des bains dans lesquels on macérait des plantes qui sont des plantes médicinales. Une autre pratique dont je viens de dire un mot, c'est la saignée. La saignée donc s'explique, se justifie dans le cadre de la théorie humorale, puisqu'il s'agit de faire évacuer un trop-plein de sang, qui se fait à la fois de manière curative quand un moine est malade, mais qui se fait également préventivement. Et à cet égard-là, bon, si je quitte Saint-Gall pour l'abbaye Saint-Jacques de Liège et je me reporte au XIIIe siècle, dans le coutumier, on a le calendrier des saignées qui est prévu, calendrier annuel des saignées, qui comprend 5 séquences de 3 jours. En janvier, février, en avril, en juin, en septembre et en novembre. Évidemment, alors, ça ne veut pas dire que 5 fois par an durant 3 jours, on va saigner toute la communauté. Non, l'abbé à nouveau détermine quelle part de communauté va être soumise à la saignée. Comme c'est un acte qui va affaiblir corporellement les moines qui vont la subir, bien entendu, le coup d'envoi est donné, si je puis dire, par une messe solennelle. Et durant ces périodes de saignée, bon, les quantités de sang, ça, ne sont pas précisées, ça, on ne sait pas. Durant ces périodes de saignée, les moines vont jouir d'un régime adapté, c'est-à-dire un allègement de leur charge, aussi bien de leur charge comme spirituelle que matérielle, et également leur régime alimentaire sera amélioré. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors maintenant, toute cette pratique s'appuie évidemment quand même sur un enseignement médical, et on peut supposer que dans ces monastères, on enseignait également donc la médecine dans une relation finalement de maître à disciple. Et en plus, on connaît alors un certain nombre de textes, enfin très peu, mais enfin on en a quand même, qui informe un tout petit peu sur la manière d'enseigner cette médecine. Et c'est notamment le cas de ce Vademecum, mais évidemment ça c'est un titre d'éditeur, où on voit où il est question de la saignée, donc c'est un texte de Saint-Gall, et où on voit qu'on procède par question-réponse de manière extrêmement... Bon, le rectal, je ne sais pas trop si c'est vraiment droite. Enfin. Et donc, on voit que c'est un texte tout à fait didactique, puisqu'il y a le jeu de questions-réponses, avec aussi, ensuite, parce que je n'ai pas continué, des informations sur la manière de penser les plaies, et également sur les précautions à prendre pour éviter, évidemment, de provoquer une hémorragie qui peut être dangereuse. Un autre texte de Saint-Gall, toujours, c'est la Sapientia Artis Medicinae, qui informe de toute une série de choses, qui est lui aussi un texte didactique. Là, je vous en ai mis un extrait, qui porte sur l'évolution du tempérament des humeurs en fonction de l'âge, parce que les humeurs sont censées évoluer dans le corps non seulement en fonction de l'année, de l'écoulement du temps dans l'année, ce qui explique d'ailleurs que l'on va saigner beaucoup plus dans la première partie de l'année que dans la deuxième, mais également en fonction de l'écoulement du temps dans la vie. Alors, ce texte, cette Sapientia, nous informe donc des humeurs de l'organisme, calendrier des saignées. On a également des informations, alors là, très pratique, une description de l'opération de la cataracte, qui était quelque chose qui était assez bien maîtrisé, avec des détails très concrets comme la manière de maintenir le patient pendant qu'on l'opère. là aussi, des précautions à prendre pour éviter de lui faire perdre son œil. Et puis aussi, alors, un certain nombre d'informations sur les organes, etc. Donc voilà un petit peu, en même temps, là, vous avez une petite idée, finalement, du climat dans lequel baigne cette médecine et, finalement, des connaissances que les personnes, que ces gens du haut Moyen-Âge ont de leur corps, ou en tout cas qu'ils pensent avoir comme connaissances. Alors, maintenant, j'en viens plus généralement au savoir médical monastique. En rappelant, mais cela a déjà été dit ce matin, que la médecine est un petit peu marginale par rapport aux sept arts libéraux, puisqu'elle n'en fait pas partie. Donc, malgré tout, elle est enseignée, elle est étudiée par les moines au même titre que les autres arts libéraux dès le haut Moyen-Âge. Elle plonge ses racines dans les textes antiques, certains traduit et adapté du grec pendant adapté en latin du grec pendant la basse antiquité. D'autres sont des compositions du haut Moyen Âge, avec un lien parfois plus distendu avec la médecine antique, mais qui existe toujours malgré tout. Qu'il s'agisse, comme on a pu le voir avec la céphalée, de termes grecs qui seront translittérés sans qu'on sache forcément si les gens savent encore ce qu'ils racontent quand ils les translittèrent, ou également des références à l'Antiquité, qu'il s'agisse d'une référence à une autorité, Galien, Hippocrate, qu'il s'agisse alors de mentions d'ingrédients que l'on utilisait dans l'Antiquité. Alors, un des textes les plus souvent cités quand on parle d'un panorama du savoir au médical dans le monde monastique, ce sont les recommandations des religieux de Cassiodore aux religieux de Vivarium. Et on sait, donc, dont je vous ai mis un extrait, ce n'est pas ma traduction, mais enfin voilà. Donc ça, c'est un des textes les plus souvent cités. Il est également connu par un codex de Saint-Gall. Et on y trouve donc un panorama de la littérature médicale existante, mais aussi tout simplement une indication comme quoi il faudra bien faire avec ce que l'on a sur place, donc ce que l'on peut trouver dans les recoins de la bibliothèque. Alors, les textes en question ont été identifiés. Bon, on sait que l'herbier de Dioscoride dont il est question, c'est probablement un pseudo-Dioscoride fait pendant le haut Moyen-Âge. La thérapeutique à Glaucon, c'est un texte de Galien. Et les textes de Cellius Aurelius, ce sont des textes en fait de Cellius Aurelianus et plutôt de leur abrégé que l'on appelle l'Esculapius, mais je n'insiste pas sur ces textes-là. Donc ça, c'est un premier panorama. Mais si on veut aller de manière plus générale dans cette littérature, on constate en gros qu'il existe quatre types de traités qui sont d'une part des practicae, donc des manuels de médecine, des manuels de thérapeutique et de diagnostic et de thérapeutique, des traités de diététique, des herbiers et des recueils de remèdes. Les traités de médecine générale, bien, c'est un petit peu le même genre que la Sapientia Artis Medicinae. On a donc soit des traités tout à fait généraux, ou déjà, dès le haut Moyen-Âge, des traités qui portent soit sur un type de maladie, par exemple un dépôt d'agra, ou sur un type de patient. Et là, évidemment, on pense notamment aux Gynaecia de Mustio, connu notamment par un traité carolingien qui est conservé à la bibliothèque de Bruxelles, qui dans ses miniatures représente notamment la position du fœtus dans l'utérus Et donc, voilà, ça c'est donc un de ces textes, ce Mustio, qui est mentionné dans des catalogues d'abbayes, enfin en tout cas de l'abbaye Saint-Allemand d'Elnone au XIIe siècle. Donc c'est un texte tout à fait, d'ailleurs le manuscrit est carolingien. Donc ça c'est pour ce qui concerne les pratiques de médecine. Si j'en viens alors au deuxième type de traité, les traités de diététique. Alors, une diététique au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, ce n'est pas qu'une question d'alimentation. C'est un traité qui prend en compte toute la manière de mener sa vie de manière à se conserver en bonne santé. Et donc, ce sont des traités qui parlent bien sûr d'alimentation, mais qui parlent aussi d'habillement, qui parlent aussi d'activité, qui parlent finalement de tout ce qui fait la vie quotidienne des personnes. Et au Moyen-Âge, dans les monastères, on connaît notamment la Dieta Theodori de Théodore Priscien, auteur du IVe siècle, qui propose une liste de denrées alimentaires avec leurs propriétés utiles pour la santé, la préserver ou la rétablir. Alors, il parle aussi bien de céréales, de légumineuses, de lait, comme l'extrait que je vous ai mis là, poissons, volailles et également les bains, ou pour ceux qui se l'attendent, le vomissement. On trouve de même un manuscrit de cette Dieta Theodori dans le monastère, parmi les quelques rares manuscrits qu'on a conservés. Il y en a un qui provient donc du monastère Saint-Pantaléon de Cologne. Donc là aussi, on est dans ce cadre de la médecine monastique. Évidemment, toujours, on ne peut évidemment pas savoir là aussi s'il s'agit simplement de textes recopiés ou mis en pratique ou pas mis en pratique. Ça, c'est évidemment extrêmement difficile à dire. Mais je pense que là aussi, c'est quand même un texte qui est assez étonnant avec cette histoire de l'enfant qui tète la chienne pour bénéficier donc du lait de la chienne dans sa puissance maximale. Il existe alors en outre des calendriers diététiques, notamment il y en a encore un conservé parmi les traités de Saint-Gall. On a aussi un calendrier diététique qui, lui, va indiquer aux religieux, là c'est comment ils doivent faire varier leur menu, leur mode de vie en fonction donc, de l'écoulement de l'année. Et ces calendriers diététiques sont en général d'origine hippocratique. Cette idée qu'il y a une variation de la force des humeurs en fonction de l'écoulement du temps, cela c'est d'origine hippocratique. Donc voilà déjà un deuxième type de traité que l'on trouve également comme pour établir une typologie des textes sur lesquels s'appuie la médecine monastique. Alors les deux derniers dont je vais parler sont les plus communs, les plus courants. Ce sont les herbiers et les recueils de remèdes. Alors voilà, ici je vous mets un item d'un herbier. Il est particulièrement développé, il concerne le romarin. Il est assez caractéristique du genre, même si on n'y trouve pas absolument tout, et notamment on n'y trouve pas véritablement référence à l'Antiquité. En tout cas, il y a certains items qui sont plus parlants de ce point de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on y voit les noms de la plante donnés dans différentes langues, et donc par les Grecs, les Latins, les Puniques. Donc là, c'est aussi une des caractéristiques de ces traités, c'est qu'ils vont donner les noms des plantes dans différentes langues, principalement du pourtour méditerranéen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des herbiers ? Eh bien, c'est que d'abord, ce sont des recueils de simples qui vont servir à la préparation, qui vont entrer dans la préparation des remèdes. Les herbiers remontent à l'Antiquité, le plus connu étant celui de Dioscoride, et au Moyen-Âge, donc, sont un succès d'année, notamment, qui sera le pseudo-Dioscoride, plus bref. Celui-ci dont je vous parle, le pseudo-Apulée, qui est copié d'un manuscrit du Mont Cassin, est un herbier relativement développé. Enfin, je n'ai pas noté ici le nombre de simples qui sont repris, mais ils sont quand même assez nombreux. Ils sont indiqués par ordre alphabétique, avec chaque fois l'utilisation de telle ou telle plante en médecine. Alors, ce pseudo-Apulée est un herbier qui aura une certaine, celui-ci en particulier, une certaine renommée, dans la mesure où, d'abord, il va inspirer d'autres herbiers, et notamment le Botanicus Saint-Gallensis, qui est à nouveau un manuscrit de Saint-Gall, qui vient d'ailleurs d'être réédité, enfin en 2005, et qui substitue à certaines plantes méditerranéennes des plantes alpines. Évidemment, là, il faudrait... Je ne l'ai pas lu. Je ne pourrais pas vous dire quelle plante exactement. Là, je me fie à l'éditrice du texte pour affirmer ça. Mais donc, là, il y a une adaptation d'un texte connu à un lieu connu, à la flore alpine. Alors, cet herbier pseudo-Apulée va avoir une postérité importante, puisqu'il sera notamment le premier herbier imprimé à la fin du XVe siècle. Alors, c'est relatif, mais beaucoup de textes du haut Moyen-Âge vont quand même être supplantés une fois qu'apparaîtra la médecine salernitaine, dont je vais dire un mot après. Et donc, les herbiers du haut Moyen-Âge auront tendance à être délaissés dans les siècles ultérieurs, mais ce ne sera pas notamment supplanté par le Circa Instans, donc l'herbier attribué à Platearius, mais le pseudo-Apulée, lui, continuera à donc avoir une postérité importante, comme je l'ai dit. Donc, il a un sort un peu différent. J'en viens à présent au recueil de remèdes, qui sont les textes les plus abondants, ou les moins rares, c'est comme on veut, dans les manuscrits des monastiques du Haut Moyen-Âge. Du Haut Moyen-Âge, comme d'ailleurs plus tard également, on trouvera des recueils de remèdes pendant toute la période médiévale et encore bien après, mais en tout cas dans les monastères, là, il n'y a aucun problème, on en copie encore longtemps après. Alors là, par rapport aux herbiers, les herbiers donnent les plantes, principalement, enfin les simples, donnent une liste de simples qui servent à la confection de remèdes. Les recueils, proprement dit, eux, donnent des recettes de remèdes. Donc finalement, ils prennent le problème par l'autre bout. Donc comment composer des remèdes pour telle ou telle maladie. Alors on en a deux types. Il y a deux types de recueils. D'une part, les antidotaires, dont voici donc les recueils d'antidota, qui sont eux des recueils de remèdes souvent issus de l'Antiquité. Bon, on ne sait pas évidemment quel cheminement ils ont parcouru pour arriver jusqu'au scriptorium du copiste, mais les informations qu'ils donnent se ressentent très fort d'une origine antique. Et notamment, on le remarque avec la mention des mesures qui sont des mesures grecques. Alors, on a la référence dans ce cas-ci à Galien, qui est donc une référence à un auteur antique. Je ne sais pas si Galien a, il faudrait vérifier si Galien décrit le Dia Calamentis quelque part, mais en tout cas, il est fait référence à ce médecin qui va donner sa légitimité au remède et sa valeur. Donc ça, ce sont les antidota. À côté des antidota et des antidotaires, on a un autre type de recueil qui sont qui ne portent pas de nom bien particulier, que l'on appelle plutôt réceptaires simplement, qui proposent des remèdes que l'on appelle parabilia, du latin parabilis, qui veut dire facile à se procurer, et qui sont, eux, des remèdes composés de plantes ou d'ingrédients faciles à trouver, peu coûteux à se procurer, et également des remèdes qui sont relativement faciles à préparer et qui seront d'ailleurs bien souvent décrits d'une manière beaucoup plus sommaire. Bon, ici, on a quand même la mention des drachmes, mais plus tard, vous aurez des mentions plutôt que de prendre une mesure grecque, on vous dira, prends une poignée de tel ou tel produit. Donc, ce sont des remèdes qui sont beaucoup plus sommaires dans leur préparation et leur origine est beaucoup moins certaine que l'origine des antidotes. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus qui remonte probablement également à l'Antiquité, mais dont on est beaucoup moins sûr de la provenance. En tout cas, ces remèdes se trouvent également consignés dans des recueils par les moines des abbayes du Haut Moyen-Âge. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'un remède contre les empoisonnements, mais vous avez des remèdes pour toutes sortes de choses, le mal de tête, le mal de pied, enfin, tout ce que vous voulez. Mais évidemment, il faut bien prendre un exemple pour illustrer de quoi il s'agit. Donc ça, c'est les quatre types de textes que l'on va trouver essentiellement durant le Haut Moyen-Âge. Mais la médecine monastique va jusqu'au XIIe siècle à peu près. Sa période d'importance maximale, c'est l'époque carolingienne, mais il n'empêche que plus tard, il y a encore eu quelques textes qui ont mérité retenir l'attention. Et un de ces textes, c'est encore un herbier, c'est le De viribus herbarum, ou en français de la vertu des herbes, la vertu, la puissance des herbes. Et ce texte est un herbier versifié qui décrit 77 plantes et leurs vertus médicinales. Et ce texte est dit de Macer Floridus. En fait, il serait attribué, son attribution n'est pas complètement certaine, soit à Odon de Main, clerc du dernier quart du XIe siècle, ou à un abbé, l'abbé Odon de Morimont. Alors ce texte est important parce qu'on le sait qu'il est important, d'abord parce que, là je vous ai pris l'exemple de l'ortie, mais bon, il y en a donc beaucoup d'autres. Ce texte est important, on le sait via le nombre de copies conservées, mais également via le nombre important de traductions qui en ont été faites, et notamment en français. Et je vous ai mis en vis-à-vis une version française, une des plus vieilles versions françaises de ce même De viribus herbarum, toujours l'ortie. Et on voit qu'il s'agit pas vraiment d'une traduction, mais plutôt d'une adaptation, d'une simplification du texte pour un public qui lui n'est plus un public de lettrés, mais un public beaucoup plus quelconque, de gens qui s'intéressent et qui sont en tout cas en mesure de le lire. Là, on est probablement sorti du cadre strictement... là, le texte est sorti du cadre strictement monastique, mais je pense que ça mérite quand même d'être souligné. Alors, ce De Viribus Herbarum, non seulement il y en a énormément de copies, on le traduit, et également on donnera ce titre à beaucoup d'autres traités d'Herbier ultérieurement, même s'ils n'ont rien à voir avec le traité dit de Macer. Alors, signe aussi de l'importance que ce traité a eu, c'est qu'il a été un des tout premiers textes à bénéficier d'une édition critique dès 1832. Ça, c'est un peu pour l'anecdote. Dernier auteur dont il importe quand même de dire un mot, dernier texte dont il importe de dire un mot, ce sont évidemment les œuvres de Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen, née à l'extrême fin du XIe siècle et morte en 1179, abbesse du Rupertsberg, on ne va pas retracer toute sa vie, elle est bien connue. D'elle et de ses textes médicaux, Laurence Moulinier-Brogui, qui est quand même son historienne, dit qu'elle marque ses œuvres à la fois l'apogée et les derniers feux de la médecine du cloître au XIIe siècle. Alors, Hildegarde est l'auteur de toutes sortes de traités, mais donc de deux traités de médecine. Un traité de médecine composée, le Causae et Curae, les causes et les cures. Là, je vous ai mis un item qui concerne le mal de rein. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle donne une recette à base de graisse d'ours. Donc là, on est encore une fois dans une adaptation à un lieu qui est le monde germanique. Donc elle écrit à la fois un traité de médecine composé, ce livre des causes et des cures, qui n'est pas qu'un livre de médecine d'ailleurs, parce que Hildegarde inscrit vraiment toute sa médecine dans un discours chrétien sur l'agencement du monde, sur la place de l'homme dans ce monde, de cet homme qui est une créature de Dieu, mais une créature imparfaite. Et elle l'envisage donc avec ses infirmités physiques et émotionnelles, et elle donne des remèdes qui doivent aider cet homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique par exemple dans un autre passage que si par exemple il n'y avait pas eu le péché originel, l'homme n'aurait pas produit tant de phlegme et donc son estomac aurait fonctionné convenablement, etc. Donc elle relie véritablement, beaucoup plus d'ailleurs que ne le faisaient les auteurs précédents, véritablement, elle relie véritablement sa médecine à une vision tout à fait chrétienne du monde. Outre son traité des causes et des cures, Hildegarde est aussi l'auteur d'une physica, d'un herbier, si on veut. Et là, je vous ai mis deux textes, celui sur la lavande, parce que je trouve qu'il est beau, et celui sur le houblon, parce que il nous ramène à la bière et à notre bonne Belgique, si on peut dire. Donc en réalité, Hildegarde donne des indications sur les plantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle aussi se réfère beaucoup à la flore locale. Et elle est un des premiers auteurs à parler du hopo, du houblon. Et elle explique véritablement qu'il empêche les pourritures, ça c'est pour l'anecdote, de venir dans les boissons. Et donc... c'est une des premières mentions véritablement de l'utilisation du houblon dans la bière, pour en tout cas faire de la bière. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est qu'évidemment, elle l'intéresse aussi pour les linguistes, évidemment, qui retrouvent des indications germaniques pour un certain nombre de plantes. Et pour nous, ça pose évidemment un problème d'interprétation, parce que nous avons évidemment un peu plus de mal à identifier ces plantes décrites en ancien allemand. Enfin bon. Donc voilà, là il y a aussi une adaptation en tout cas au terroir d'un genre qui vient de loin et qui sert, qui est utilisé donc pour la médecine. Alors on est à ce moment-là donc au XIIe siècle. Et XIIe siècle, dernier feu, dit Laurence Moulinier, et je pense que c'est tout à fait exact, puisque parallèlement aux travaux d'Hildegarde de Bingen, Salerne, l'école de Salerne commence à se développer. Alors je ne vais pas parler de l'école de Salerne, sinon pour dire que cette école de Salerne va ramener en Occident les traductions gréco-arabes des textes antiques. Et donc, elle va donner, avec évidemment les traductions qui seront en Espagne également, le coup d'envoi de la médecine universitaire, mais je n'en parle pas ici. Sauf peut-être pour signaler que cette école de Salerne et plus tard la laïcisation de la médecine va quand même se faire par l'entremise d'un moine en la personne de Constantin l'Africain, qui est un moine d'origine de la Tunisienne actuelle, qui a pris l'habit au Mont Cassin, qui est mort en 1087 et qui a apporté finalement, et qui a traduit énormément de textes arabo-grec en latin. Et donc c'est finalement par l'entremise de la médecine du cloître finalement que la médecine sortira du cloître via les moines, via les médecins de Salerne et puis plus tard les médecins universitaires. Alors même si la médecine monastique proprement dite prend fin au XIIe siècle, une activité médicale se poursuit dans les abbayes au-delà du XIIe siècle, en dépit donc aussi du concile Latran IV. Elle continue au bas Moyen-Âge et durant la période moderne. Mais elle va essentiellement se réorienter vers la pharmacie, donc qui deviendront les pharmacies monastiques, qui deviendront des entités quasiment autonomes à l'intérieur du monastère et qui, à l'époque dès le bas Moyen-Âge, mais également à l'époque moderne, vendront un certain nombre de spécialités aux alentours. Et les pharmacies monastiques deviendront un élément important pour l'économie même du monastère, puisqu'ils trouveront dans ces spécialités, dans ces produits pharmaceutiques, ils pourront faire des profits, quoi. Et parmi les remèdes qui vont être faits, il y aura alors des spécialités qui seront composées par certains monastères. Et je vous mets ici une de ces spécialités, un précieux baume bénédictin composé ou copié, je ne sais pas trop, à Stavelot, qui figure dans un recueil de remèdes qui provient de l'abbaye de Stavelot au XVIIe siècle et qui nous montre, bon évidemment là on ne saurait pas lire ce qui est, enfin je crois que c'est trop petit pour qu'on puisse lire la composition, mais en gros on a quand même toujours le même genre d'ingrédients qui vont être utilisés, même si on ajoutera d'autres ingrédients découverts entre-temps vont être également incorporés à ces remèdes par rapport à ce qu'ils étaient dans la médecine monastique proprement dite. Mais donc finalement il y a une continuité donc qui se produit. Alors il faut quand même aussi ajouter que outre ce brave frère Benoît de Damsau, qui n'est quand même pas autrement connu, il y a quand même en 1714 un texte qui est écrit par un bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, qui est Don Nicolas Alexandre, qui publie une médecine et chirurgie des pauvres, et qui finalement propose, quasiment 1000 ans après les moines carolingiens, des remèdes à la portée et à l'intention du public humble qui ne peut pas se payer une médecine plus chère. Mais donc cette médecine se continue au-delà du XIIe siècle, mais il faut bien dire qu'elle a perdu un statut historiographique particulier. Elle est l'historiographie de la médecine, soit l'ignore, la marginalise ou l'incorpore purement et simplement dans la bienfaisance, sinon dans la médecine populaire, avec tout ce qu'il y a de suspect et dans ce terme. Mais donc voilà, cette continuité se marque donc des siècles durant. Alors j'en viens maintenant rapidement à ma conclusion, c'est que bien entendu la médecine monastique n'est pas qu'un savoir, mais d'abord elle est présente dans les préceptes même de la règle bénédictine, et elle repose aussi sur une théologie sur une théologie du péché, de la rédemption, etc. Donc elle a un statut tout à fait particulier dans les monastères. Elle a un statut aussi dans l'histoire de la médecine médiévale elle-même et dans ses prolongements. Et donc, en dépit de tous les problèmes d'interprétation que les quelques malheureux textes que nous avons du Haut Moyen-Âge, elle mérite malgré tout d'être étudiée parce qu'elle est intéressante en tant que telle. Elle est on ne sait pas non plus... Oui, des problèmes d'interprétation, aussi bien des problèmes de lecture que des problèmes de savoir si on reflète une réalité ou si c'est simplement quelque chose de plus ou moins idéalisé. Mais je pense que l'intérêt de la médecine monastique ou de la médecine médiévale plus généralement ne se limite pas à cela, ne se limite pas à l'histoire de la médecine. Dans ce cas-ci, elle éclaire finalement un pan de l'histoire religieuse puisqu'elle montre un aspect du rapport du christianisme au corps et d'un rapport qui est empreint de sollicitude pour le corps, pour l'enveloppe corporelle. Et puis, en outre, ce savoir médical, qui est aussi un savoir physiologique, si on peut dire, nous montre finalement quelle conception nos ancêtres se faisaient du corps, de leur propre corps, comment ils comprenaient le fonctionnement de ce corps, ses dysfonctionnements, donc finalement comment ils se connaissaient eux-mêmes en quelque sorte, et comment l'idée qu'ils se faisaient également de l'inscription de ce corps dans son environnement, qu'il soit proche ou qu'il soit plus lointain. Et donc, je pense que si on dépasse finalement simplement une histoire technique de la médecine, mais il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, l'histoire de la médecine est de moins en moins une histoire technique, ou une histoire des progrès de la médecine également, c'est pareil. Si on dépasse cet aspect-là des choses, on s'aperçoit que cette histoire de la médecine et de la médecine monastique permet finalement d'appréhender les populations anciennes dans ce qu'elles ont de plus intime, puisqu'il s'agit d'elles-mêmes. Et je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention très riche qui nous a permis de faire un voyage dans les traités de médecine et de diététique, parler du corps aussi du moine, des notions qu'on connaît peut-être un peu moins bien, même si on est vraiment dans le milieu monastique. Je vais laisser peut-être la parole à la salle si vous avez des questions. Oui.
Je voulais savoir, est-ce que vous auriez des informations entre le lien avec la médecine dont vous avez parlé? Et par exemple, dans les sources hagiographiques, on a pas mal de miracles de guérison avec des reliques ou de la poussière de tombeaux de saints. Et
ça, je voulais savoir un autre domaine.
Si c'était en parallèle ou si des fois il y avait des mélanges dans la pratique.
C'est-à-dire que les deux étaient probablement se pratiquaient. se pratiquait même probablement en parallèle, mais dans les textes médicaux, vous n'avez pas ce genre de mention. D'accord. Mais les deux, oui. En fait, cette médecine, je n'en ai pas parlé, mais il y avait quand même une bonne part de entre guillemets magie, ce qu'on peut appeler des sympathies, notamment via les charmes, etc. Les formules que l'on prononçait, qui apparaissent dans ces textes, d'ailleurs dans ces textes du Haut Moyen Âge, dans ces textes monastiques. Mais bon, les deux étaient probablement pratiqués en parallèle, mais disons que, à part dans les recueils de remèdes, vous aurez des mentions un peu plus magiques, en prenant le terme avec des guillemets. Autrement, les deux ne se mélangent pas dans les textes, véritablement. Ou en tout cas, s'ils se mélangent, ils font partie d'un tout, alors. C'est assez complexe, finalement. En fait, le problème, c'est qu'on est dans un cadre mental totalement différent du nôtre, où il faut qu'on fasse abstraction de nos propres considérations. Mais donc, on pouvait tout aussi bien aller... Les pratiques magiques, les pratiques, ceux qui pouvaient tenir à des pèlerinages ou des choses comme ça, ça n'apparaît pas véritablement dans les textes, mais les deux se pratiquaient.
Merci. Oui. Merci. Pierre Levron.
Alors moi j'aurais une question à vous poser. Enfin, vous n'avez pas parlé de la médecine, disons, du psychisme.
Non.
Enfin, et je constate que cette préoccupation existe en médecine salernitaine.
Oui.
Mais est-ce que nous avons, avant Constantin l'Africain et son De Mélancolia, est-ce que nous avons de la documentation historique relative à la médecine du psychisme en général en milieu monastique?
C'est une question un peu difficile. Moi, je dirais que non. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. En fait, par exemple, Hildegarde va prendre en considération les émotions, des choses comme la colère, comme des accès de colère ou des choses comme ça, et elle va donner des remèdes. Mais est-ce que là, on peut dire que c'est psychique si on veut, mais c'est pas véritablement... Alors, bien sûr, non, on ne peut pas véritablement parler de... Non, c'est quand même... Maintenant, il y a aussi ce qui reste et ce que... Non, c'est quand même essentiellement la médecine du corps-corps, quoi. si vous me permettez l'expression.
Oui.
Une question facile après la difficile. Dans une de vos premières diapos, vous mentionnez trois saignées, céphaliques, médianes et hépatiques. Ça veut dire que c'est trois endroits différents D'accord. Donc on fait une saignée à la tête.
C'est pas forcément à la tête, hein. c'est plutôt à la jugulaire ou un truc comme ça, quoi. C'est ce qui est très dangereux.
Faut pas se rater.
Hein. C'est très dangereux. Hein.
Pas de médecine expérimentale.
Mais il n'est pas dit que. Mais voilà, il n'est pas dit que ça se pratiquait réellement. Quoi. Mm. Ça. Mais on a quand même des indications. Des mises en garde. Faire attention de ne pas toucher ceci ou cela.
Je peux répondre à cette question. La veine céphalique, elle est dans le bras. Ouais. Encore au XXIe siècle.
Oui, bon. Ah bon. Ah, voilà.
D'autres questions? Bon, moi, j'en avais plein, mais... Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter parce que nous allons présenter maintenant le prochain intervenant qui est Jean-Luc Sarrazin, qui veut partir à 15h30. Donc je me permets de le présenter. Jean-Luc Sarrazin est spécialiste de monachisme cistercien. Il a beaucoup travaillé sur les espaces littoraux de la France atlantique du XIIe au XVe siècle, spécialiste également d'économie rurale, et également travaille sur le thème de l'État et de la seigneurie de la fin du Moyen-Âge. Il a travaillé par exemple sur l'abbaye de cistercienne de Buzet, près de Pornic. Il a également beaucoup travaillé sur le pays du littoral, le Poitevin, toujours dans les mêmes périodes, 12e, 15e siècle. A publié il y a quelque temps un ouvrage sur le sel de la baie, histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques. Et a également travaillé sur les salines du littoral Poitevin, notamment dans le cadre d'un colloque sur l'abbaye de Maizet dont on parlait ce matin. Et puis un dernier ouvrage, là, un ouvrage d'hommage intitulé « Entre horizons terrestres et marins », puisque Jean-Luc Sarrazin est professeur émérite en histoire médiévale de l'Université de Nantes. Et aujourd'hui, il va nous parler non pas de salines, mais plutôt d'hydraulique, et pas d'hydraulique à l'intérieur du monastère, mais d'hydraulique à l'extérieur du monastère. Donc je lui cède la parole.
Voilà, je remercie d'abord les organisatrices de ces journées de m'avoir invité à cette journée à intervenir. Et je remercie effectivement Cécile en particulier pour les différents messages qu'elle m'a envoyés, puisque j'avais proposé un autre sujet qui était plus cistercien, c'était les cisterciens et l'eau, une hydraulique cistercienne avec un gros point d'interrogation. Donc, je suis revenu vers le Marais Poitevin, ce qui est beaucoup plus logique par rapport aux préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui. Alors, par hydraulique monastique, qui a été le titre d'un colloque à Royaumont, près de 30 ans, l'on peut entendre les techniques mises en œuvre par les abbayes dans la maîtrise et la gestion des eaux. Bon. Appréhendée dans sa globalité, l'hydraulique monastique concerne d'abord l'enceinte claustrale, chaque monastère, les aménagements, les dispositifs auxquels ont donné lieu l'alimentation, l'adduction, la distribution, l'évacuation de l'eau. Mais là, il s'agit des affaires de l'archéologie. Il y a des tuyaux, il y a des fontaines, voilà. Donc, j'en ai parlé ailleurs, mais de seconde main, je le reconnais volontiers devant tout le monde, je ne suis pas archéologue, donc mon exposé aujourd'hui porte sur l'hydraulique monastique à l'extérieur des monastères, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des adductions d'eau vers le monastère à l'extérieur, évidemment. Maîtrise de l'eau à l'extérieur des monastères, sur les rivières, les terres, composant le temporel des établissements. Alors, les abbayes le plus souvent citées, bon, Maizet, je n'ai pas besoin d'insister, pour le monachisme clunisien, je me permets de vous renvoyer là, à un très beau livre de Georges Pont et Yves Chauvin sur le récit du moine Pierre, fondation du moine Pierre, très très beau livre, et je me permets aussi de renvoyer aux actes du colloque publié sous la direction de Cécile Tréfort et Mathias Tranchant. Alors, pour ce qui est des cisterciens, les maisons dont je parlerai le plus sont Moreille, attestée depuis le début du XIIe siècle et qui entre dans la filiation de Clairvaux en 1152. J'insiste sur ce point, parce que très souvent pour le monachisme cistercien, l'on abuse de cette question des filiations. Il y a affiliation, c'est-à-dire que vous avez cette abbaye dont on ne sait pas exactement ce qu'elle allait faire, et qui choisit en 1152 l'affiliation de Citeaux. Je pourrais prendre les dunes en Flandre. Hein. Le mot polder apparaît en 1130 pour les dunes, à cette date, les dunes ne sont pas encore... Enfin, l'abbaye des dunes ne fait pas partie de l'ordre cistercien à cette date. Donc, vous voyez les ambiguïtés qu'il peut y avoir à ce sujet. Deuxième abbaye dont je vais parler, la Grâce-Dieu, fondée en 1135 par Clairvaux. Alors là, pas de problème de filiation. C'est sur la commune actuelle de Benon, en Charente-Maritime. Charon, qui est une fille de la Grâce-Dieu, 1190, elle apparaît dans les Statuta, en 1191. Nous ne sommes pas très loin de La Rochelle. Il est question d'un kiwis de La Rochelle dans les Statuta du chapitre général de Cîteaux pour 1191. Saint-Léonard-des-Chaumes, fondé par Breuil sous Pontigny en 1168 dans la filiation de Pontigny. Dompierre sur mer en Charente-Maritime actuellement. Alors, le cadre géographique, c'est le Marais Poitevin. J'insiste sur un point, Marais Poitevin est une expression récente. J'en veux pour preuve le titre qu'a donné Étienne Clouzot, ce savant chartiste du début du XXe siècle, à son ouvrage « Les marais de la Sèvre niortaise et du lait ». Marais Poitevin n'apparaît pas à ce moment-là. Donc c'est une expression géographique, comme nous avons des expressions historiques, guerre de Cent Ans, des choses comme ça. Alors le Marais Poitevin est effectivement le réceptacle des eaux d'un vaste bassin versant de la plaine du bocage. Vous avez effectivement ici une très belle carte de... Voilà. D'accord. Merci. Carte de Claude Masse. Mais attention, cette carte est une carte d'après la seconde naissance du Marais Poitevin. Il n'empêche que, et je vous le montrerai tout à l'heure, elle porte des traces des aménagements hydrauliques du Moyen Âge. Aujourd'hui, je n'envisagerai que le bassin de la Sèvre, pour une raison très simple. Le bassin du lait reste dans la pénombre du commentaire. Les archives de Saint-Michel-en-Lerme, des vieilles abbayes bénédictines de Saint-Michel-en-Lerme et de Luçon, ont été totalement détruites pendant les guerres de religion. Donc, pénombre documentaire. C'est un peu moins mal pour le bassin de la Sèvre. Nous avons là quand même quelques éléments documentaires qui ne sont pas à négliger, en particulier pour Maizet. Alors, les archives de Maizet, le chartrier de Maizet a brûlé en 1772 à La Rochelle, mais un savant moriste, congrégation de Saint-Maur, dont Fontenot est passé par là, le père oratorien Jaillot et le père oratorien Arcer. Donc, nous avons des copies quand même d'excellente qualité. Simplement, globalement, nous travaillons sur des épaves et avec des lacunes documentaires qui sont patentes. Hein. Bon. J'en veux pour preuve, et je reprends là les statuta capitulorum generalium ordinis cistercensis, les statuta du chapitre général de Cîteaux. En 1190, éclate une querella inter domum des Morel et des Trizet. Bon, comititur abatibus des Pinoux, je crois, et la Gracieux, je crois, peu importe. Bon, aucune trace. Pire, nous avons toute une série de mentions dans les statuta de l'ordre cistercien, du chapitre général, de querelles entre les trois maisons cisterciennes au sud de la Sèvre. c'est seulement le dernier avatar de la querelle qui nous permet d'avoir un document d'un extrême intérêt sur la sentence arbitrale dont je parlerai dans un instant, des définiteurs du chapitre général de Cîteaux. Bref, la couverture documentaire n'est pas très bonne, mais enfin, nous avons des éléments qui sont susceptibles de porter un éclairage assez satisfaisant le plus souvent. Je commencerai par le monachisme clunisien. Chronologiquement, il faut commencer par là. Maizet et l'exploitation des eaux courantes. Alors, dans ce premier temps, ce monachisme ne fait que bénéficier des dons d'écluses, de parties de cours d'eau, de moulins déjà existants. Bon. Ainsi, Maizet est doté dès sa nouvelle fondation par le duc d'Aquitaine, comte de Poitou, Guillaume V le Grand, d'une partie du cours de la Sèvre depuis sa confluence avec l'Authise jusqu'à l'écluse Videléas, c'est-à-dire la confluence avec la Vendée. Alors, je me suis permis de reprendre une carte figurant dans l'excellent livre de Georges Pont et Yves Chauvin. Vous avez... Alors, voilà. Hop. Voici la partie de la Sèvre qui est donnée à Maizet. Qui est donnée. Il est facile de traduire. Il est beaucoup plus difficile d'expliquer. Bon, de dit, on sait traduire. Mais attention à l'intérieur. Qu'a donné réellement le duc d'Aquitaine, comte de Poitou? Une autre charte, pratiquement contemporaine, du duc, mais Maizet en possession, plus en amont, sur le cours du fleuve, d'une écluse, Oreus Becus, non identifiée, avec deux moulins et de toute l'eau du fleuve, de l'écluse justement, jusqu'à une autre écluse, Aqua Quieta, que Georges Pont identifie comme F clé sur l'actuelle commune d'Arcet. Elle se trouve ici. Voilà. Bref, vous le voyez, dans un premier temps, Maizet est doté d'eau de rivière, Sèvre et, en plus, l'Authise. Alors, l'Authise n'apparaît que dans la bulle privilège du pape Célestin III, délivrée le 13 mai 1177. Cette bulle place, comme il se doit, l'abbaye sous la protection du Saint-Siège, stipule que la règle de Saint-Benoît y soit observée à perpétuité et confirme la possession d'églises et de biens précisément énumérés. Alors, la liste établie par la chancellerie pontificale reprend celle que lui a transmise l'abbé de Maizet. Alors, dans un premier temps, la formule habituelle, hein, locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est, bon, où est situé le monastère, cum pertinenti suis, avec les dépendances. Mais immédiatement après, nous avons la mention aquam altesiam, l'eau de l'Authise, aloco qui dicitur vervea, usque adeum qui confluentium nuncubatur ex utraque ripa. Donc, nous avons là un don qui a été fait, on ne sait pas quand. Toujours est-il que pour Maizet, pour l'abbé de Maizet, lorsqu'il fournit la liste à la chancellerie pontificale, pour l'abbé de Maizet, il y a continuité, une continuité de ces deux cours d'eau. Et, alors vous le voyez, des écluses, mais alors des écluses qui existaient déjà. ont-elles été améliorées? Ont-elles été perfectionnées? Aucun indice textuel ne permet de le dire. En revanche, il y a un petit élément qui peut être intéressant sur l'activité de Maizet en matière de gestion des eaux courantes. Alors, aquam separis, bon, l'eau de la Sèvre, ab ipso loco, usque ad exclusam quae dicitur vel delea. Donc, il s'agit bien de la Sèvre et jusqu'ici. Cum omnibus exclusis quae interposite sunt, avec toutes les écluses qui sont entre les deux. Il n'en est pas question dans la charte de Guillaume le Grand. Bref, on peut penser que Maizet a implanté de nouvelles écluses sur le cours de l'Authise. Alors, il y a à ce propos, au reste, une clause qui est assez intéressante, puisque elle indique que entre le confluent de l'Authise et celui de la Vendée, le texte dit que les quolibères qui détiennent les écluses doivent désormais acquitter le profit, les revenus qu'ils tirent de l'eau, exclusivement à l'abbé et aux moines de Maizet. Et lorsqu'un quolibère meurt, son seigneur ne peut revendiquer quelque droit que ce soit sur l'eau. Nous sommes là, je remonte en 1003, le duc d'Aquitaine, comte de Poitou, retire donc une partie de la Sèvre du domaine public, le sien, pour la transférer à l'abbaye en prenant soin de garantir le droit de cette dernière. Dans le cadre du mouvement de seigneurialisation rampante qui était à l'œuvre, le risque existait en effet que tel seigneur, dont les quolibères étaient les sujets, essaie d'étendre par ce biais sa seigneurie à la Sèvre. Donc, cela veut dire que Maizet se trouve en position seigneuriale dans ce cas de figure. Et que bon, des paysans, des éclusiers quelconques tiennent ces installations pour le compte de l'abbaye. Position seigneuriale et rentière. Quelle exploitation des eaux fait Maizet? Premièrement, c'est assez facile à résumer. Circulation des barques. Ça, pas de problème. D'autant plus que Maizet installe des petits péages. Ça ne devait pas être d'un rapport exceptionnel, mais tout ça pouvait compter quand même. Les moulins, bien entendu, et les pêcheries. Bref, une exploitation que l'on voit dans ses grandes lignes, mais que l'on ne connaît pas dans les détails. Par exemple, pour la pêche, pratiquement rien. Il faut, enfin l'indice, pardon, le plus sûr, le plus éclairant, est fourni par l'existence d'un office dédié, c'est-à-dire que d'un office d'un aquaticus chargé de gérer l'approvisionnement de la communauté monastique en poissons. Cet aquaticus a droit à un chapitre, c'est le chapitre 19, dans le coutumier clunisien de Maizet, qui date du début du XIIe siècle, mais dont la copie est du tournant XVe, XVIe siècle. Bon, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à la fin du XIIe, Maizet exploite les possibilités de la Sèvre et de l'Authise. Son temporel se trouve là, sur la terre ferme, dans la plaine, avec des domaines, où il y a des moulins d'ailleurs aussi, dans le marais proprement dit, il n'y a rien. Cette carte peut être reproduite pratiquement telle qu'elle en 1197, à la fin du XIIe siècle. Autrement dit, nous avons là simplement une utilisation, tant bien que mal, avec peut-être des améliorations quant aux techniques, des eaux existantes, des eaux courantes, des rivières. Un véritable tournant se produit à la fin du XIIe siècle. À cette date, les maisons cisterciennes se lancent dans de grands chantiers de drainage des terres immenses, parfois, qui leur ont été données. Des terres qui sont de véritables terres spongieuses, marécageuses, effectivement, au sens sauvage du terme. On change totalement, là, d'optique. Jusqu'à présent, il y avait une exploitation par les moines clunisiens, là, bon, pour faire simple, des eaux. Maintenant, l'on va séparer l'eau de la terre pour bonifier le sol. Et il faut gérer naturellement cette mise, l'établissement des réseaux. Alors, les grands chantiers de drainage et de bonification des sols hydromorphes au sud de la Sèvre sont l'œuvre des trois maisons que j'ai indiquées. Bon. Ces maisons s'associent les unes aux autres. Les trois se retrouvent ensemble en 1192 pour dessécher le marais des Alouettes au nord-nord-est de Maran. Voilà. Bon. C'est de cette entente première que surgit ensuite une querelle à n'en plus finir qui rebondit d'un chapitre général à un autre chapitre général tous les ans au mois de septembre. Parce que visiblement, ces maisons ne veulent rien entendre, rien comprendre. Il y a des termes assez vifs quand même dans les statutas, mais bon, voilà. Bref, voilà, alors, pardonnez-moi, cette carte, elle est d'un autre siècle, du XXe. À cette époque, il n'existait pas de logiciel de cartographie. Alors, bon, c'est très, très... Bon, on voit bien, c'est du brouillon, quoi. C'est comme ça, mais bon, comme je l'avais sous la main, je l'ai reprise ici. Bon. Alors, ce que l'on peut observer, c'est que les cisterciens, voilà, sont dotés de terre en arc, non pas immédiatement autour de la baie de l'Aiguillon, de l'anse de l'Aiguillon, comme on disait déjà, mais un peu plus en amont. Bon. Les cisterciens, là, donc, assainissent, se composent des domaines assainis, et en particulier Moreille. Moreille, en quelques années, ouvre des canaux essentiels dans le dessèchement du marais. Voici, alors, voici un. Celui-ci, on le connaît bien, je vais en parler dans un instant. C'est Beau Neuf, et vous avez un autre canal ici que l'on découvre a posteriori, et c'est peut-être ce canal qui est l'origine de la querelle avec Trizet. Bon, mais ça, les statutas sont assez lapidaires, on ne sait pas. Bon. Très intéressant, les cisterciens. Alors, vous allez dire, on ne sait pas quelle est la superficie si a posteriori, grâce aux baillettes de la seconde naissance du marais Poitevin. 1642 pour Moreille, baillette à Pierre Siette. Calcul. Alors, dans un premier temps, on est à 1500-1600 arpents. On réarpente après, hein, et on s'aperçoit qu'on tourne autour de 1000. Ça correspond à une superficie de 3400 400 et quelques hectares. C'est considérable, considérable. Bon. Donc, c'est cet encens, c'est ce marécage-là que Moreil dessèche. Sous l'abbé Ostensius, les abbés ont leur importance. On sait qu'il est encore en activité un peu avant 1210, puisqu'il y a un successeur en 1210, mais on ne connaît que son nom. Quelle technique ? Alors, la technique, vous la voyez, l'abotabantum. N'ouvrez pas votre gaffio, ça ne s'y trouve pas. Ce mot est la latinisation d'un mot de langue parlée, de langue vernaculaire, bot, B-O-T, qui devient en latin botum, neutre. Et l'action de mettre en des bots, d'établir des bots, devient abotabantum. L'abotabantum, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique de l'enceinte desséchée. Alors, il existe déjà des clos desséchés. On peut en repérer en particulier autour des îles calcaires de petits lots, de petits clos. Bon, on égoutte comme on peut. Voilà. Et là, par contre, les enceintes sont de grandes dimensions. Elles sont établies à l'échelle d'un bassin versant. C'est déjà le premier point. Et puis, il y a cette fameuse querelle entre les trois maisons du sud de la Sèvre. La Grâce-Dieu, Charon, Saint-Léonard-des-Chaumes. Saint-Léonard-des-Chaumes est Socios Eius et ses associés. Oh là là. Voici une maison cistercienne qui doit avoir recours à des capitaux rochelais. C'est l'idée que j'ai. Bon. Alors, vous savez, dans les statuts du chapitre général, on parle des femmes qui arrivent dans les monastères quelquefois. C'est pas bien, évidemment. Mais les monastères ont aussi des liens avec la société environnante. Ah, on est un peu limite dans tout cela, mais vous savez, les choses se sont assouplies depuis les années 1180. Alors, cet abotamentum est précisément décrit par, on est en 1217, décrit par la sentence arbitrale des définiteurs de l'ordre de Cîteaux, terminant les contestations entre la Grâce-Dieu, Charon et Saint-Léonard-des-Chaumes à propos du marais des Alouettes. Texte merveilleux. C'est l'un des plus beaux avec le texte relatif à l'ouverture du canal des Cinq-Abeilles. Pro clausuris. Alors, clausuris, bon, ça. Clausuris, c'est le. Je vais vous montrer dans un instant le schéma. C'est l'achenal, c'est le canal de ceinture. Et excursibus, les écours, ce qui permet d'écouler des eaux, mare zorium, qui dicintur alouette, bon, qui sont alouette, mare des alouettes, sous l'autorité du chapitre général, hoc modo definimus, c'est-à-dire qu'on a pris, là maintenant, on a défini, hein, c'est décidé. Parce que visiblement, pendant 12 ans, à peu près, ça rebondissait presque d'un chapitre général à l'autre. Videlicet ut in clausura hoc est in exteriori esterio, c'est-à-dire dans l'étier extérieur. Alors, esterium, c'est pas du latin classique, c'est un mot de la langue parlée. Ce texte est magnifique, c'est un texte de trois abbés parce qu'il mélange le vocabulaire savant et le vocabulaire parlé. Alors, l'étier, c'est là où la marée fait sentir son mouvement. Bon. Et in interiori, quod dicitur contra botum. Et à l'intérieur, qui est appelé contre-beau. Alors, contra, c'est peut-être cistercien. Botum, c'est la langue vernaculaire. Contre-beau. Alors, in ligneo vero conducto aquarum. Alors, voici ce schéma de la Botamantum. Vous avez l'enceinte ici, desséchée. Alors, cette enceinte est drainée par des fossés. On trouve le terme fossatum assez facilement, c'est pas difficile. Elle est ce drainage aboutit dans le contrebout, lequel est à l'intérieur. À l'extérieur du bout, vous avez la chenal ou closura. Alors, entre les deux, avec des cesses ou quoi, des couets, c'est-à-dire des bondes de bois qui relient le contrebout à la chenal, ou de véritables écluses ou portes ici qui donnent. Alors, le beau, c'est ça. C'est cette levée qui isole le desséché de la chenal. Alors, contre-beau plus closura, cela protège le beau des déprédations, par exemple, des animaux. C'est une protection. Mais je vais revenir dans un instant là-dessus. Alors, conception. Mais bien entendu, vous avez la possibilité de repérer les points stratégiques. Les Cisterciens de Moreuil installent des granges. Alors, en voici une. Alors, le canal de Beaunu, de Beauneuf, est là. Il s'appelle aujourd'hui le canal du Clain. La grange de régulation hydraulique est là. Alors, en plus... Bon, voilà, c'est la même chose. Le site de la grange est double. C'est tout ça, en réalité. Alors, maintenant, c'est des exploitations. Hein, c'est plus de grange cistercienne. Au sol, voilà. Alors, voici la chenal creusée par les cisterciens et... La grange est derrière. Alors, quelles sont les conceptions, les pratiques, les enceintes mises en place par les cisterciens sont en quelque sorte des enceintes mises en défend. On se protège de l'eau qui descend. Ad defendendum, je ne cite pas pour gagner du temps là, les textes latins. Les trois là, du sud de la Sèvre parlent des eaux qui descendent de Noyer et il s'agit de se défendre contre ces eaux. Le beau est là. Résultat, je reviens vers le nord de la Sèvre. Un seigneur qui, bon, Maurice devait luire, qui avait des problèmes de surhumidité, d'ailleurs d'inondation dans ses terres, un jour est arrivé, il a fait des brèches pour que l'eau passe dans le canal des cisterciens, qui n'ont pas été contents du tout, parce que le beau était attaqué. Bon. Donc, c'est une mise en défend, c'est une succession de mises en défend. La maîtrise hydraulique est non seulement une affaire matérielle, c'est aussi une affaire de conception, de représentation mentale. On peut comparer le beau à la haie forestière qui protège une forêt, un bois. Alors, les questions sont finalement nombreuses à propos de cette dynamique cistercienne qui ne dure pas extrêmement longtemps. On va dire que cet élan, c'est 20-30 ans à peu près. Première question, existe-t-il un savoir-faire technique spécifique aux cisterciens? Bon. Alors, il y a des contra fossatum, outre-Manche, chez les cisterciens, et qui fonctionnent comme les contra botum. Est-ce que il y a un échange à l'occasion des chapitres généraux d'informations techniques? La réponse est oui. La longue querelle sur les trois maisons cisterciennes, bon, qui revient sur le tapis, si l'on peut dire, pendant 12 ans, montre que l'on parlait des marais. Bon, ça c'est vrai. Mais, par exemple, si l'on compare à la Flandre, il y a un écart chronologique avec la Flandre. Les polders flamands sont antérieurs d'un certain... Il y en a d'autres qui sont postérieurs, c'est vrai. Mais, et les polders flamands sont une conquête des shores, c'est-à-dire des zones de vase, de sédimentation marine. Là, c'est une question de dessèchement de terres qui sont gorgées d'eau douce. Comment s'effectue l'insertion dans la société locale? C'est pas rien, ça. Robert Fossier a eu raison à un moment de dire que les cisterciens formaient des kystes. Oui, il y a des kystes, mais, il y a aussi des ententes. Par exemple, les cisterciens de Moreil doivent demander au prud'homme de Luçon des indications pour le tracé de tel ou tel canal. Donc, il y a des échanges. Il y a des échanges, mais... Et puis, quelle main-d'œuvre! Moreil ouvre une trentaine de kilomètres en quelques années. Eh bien, je peux vous dire que retirer la boue, c'est quelque chose d'effrayant sur un plan physique. Est-ce qu'il y a une armée de convers, comme à Tenduinen? On sait qu'en 1250, il y avait 1248 convers, donc dans l'abbaye des Dunes, en Flandre. Rien en documentation n'importe. Bref, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Mais il y a indéniablement, et là, un moment cistercien. Et ce qu'apportent les cisterciens d'un certain point de vue, c'est une nouvelle échelle. Et c'est une maîtrise intellectuelle que l'on oublie parfois. C'est-à-dire qu'ils s'emparent de techniques qui étaient sans doute plus ou moins à l'œuvre déjà, et en donnent une nouvelle dimension. Alors, bien entendu, les cisterciens bouleverse l'équilibre hydraulique. Si vous faites des enceintes desséchées, vous réduisez la surface d'épandage des eaux. Autrement dit, toutes ces enceintes qui ont été établies par les cisterciens en arc de cercle, en noient les marais qui sont en amont. C'est le début de l'opposition entre marais desséchés et marais mouillés. Bien entendu, les abbayes, dont les paysans tenanciers étaient, on va dire, possessionnés dans ce secteur, ne pouvaient pas ne pas réagir. Et ces abbayes réagissent en 1200. 17. C'est le creusement du canal des 5 abbés que vous voyez ici pour récupérer l'eau des marais en amont et l'acheminer vers la Sèvre et vers la mer. Alors, là, nous avons, bien entendu, Saint-Michel, Maizet, Niol sur l'Autise, Lapsi, et j'ai dû en oublier une, enfin bon, c'est pas grave. Voici la carte de masse, et voici le fameux canal Achenal des 5 AB, dont le tracé est strictement le même depuis le Moyen Âge. Alors, la perle, parce que bon, voilà, où naît le canal. Regardez-moi ça. C'est une observation que je vous fais du beau. Le terme vernaculaire a été néerlandisé après le passage des ingénieurs hollandais du XVIIe siècle. Néerlandisé a posteriori, ça faisait mieux. Beau, B-O-T, non. Beau, O-O, c'était bon, voilà. Bon. Alors, voici une des zones de recueillement. Je vous fais grâce, je passe très vite. Les drains sont enterrés. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour la biodiversité. Alors, voilà. C'est une photo que j'ai prise à la fin de l'hiver. Je ne sais plus quand, d'ailleurs. Bon, voilà, on voit l'eau arriver. Voici, site de la Perle, avec, évidemment, des équipements modernes. Bon, voilà. Ça, c'est la porte près de près du Brou, c'est-à-dire près de la Sèvre. Voilà, le canal 5 AB. Alors, Maizet, dont les domaines au XIe, XIIe siècle se trouvaient dans la plaine, sur la terre ferme, bascule dans le Marais. Et se branche, en quelque sorte, sur les écours des Cisterciens, non sans difficulté apparemment. Alors, quels sont les équipements? Alors là, c'est très technique. Les équipements de régulation hydraulique, l'écluse. Alors, excludere en latin, c'est dévier. Excludere. Bon, il y a un bief, il y a une dérivation. Pas toujours. L'écluse, c'est une installation qui permet de réguler le niveau de l'eau, qui permet d'installer une pêcherie, qui permet d'installer un moulin. C'est banal, je n'insiste pas. Un clusellum, c'est une petite écluse, c'est beaucoup plus pointu en technique. C'est plus petit et c'est à la fois plus difficile. Cheyetta, cher, c'est une chute en français, c'est un déversoir. Déversoir que nous avons, par exemple, à la naissance des 5 AB. Fuernae, nous avons Fuernae lorsque l'Achenal débouche sur la Sèvre. Que sont ces portes à vantaux? Ce sont des portes qui s'ouvrent en fonction du courant de l'eau. Nous avons là le mouvement de la marée. Il s'agit, en lien par exemple avec Beauneuf-Lagrange, qui régule le niveau en amont, soit de laisser l'eau aller et donc on dessèche, les portes des fournaises s'ouvrent, ou au contraire, en période de sécheresse, on conserve l'eau. Voilà, voilà le principe de ces portes à vantaux, fournaises, qui sont mentionnées dès le XIIIe siècle. Alors, voici une autre enceinte cistercienne le long de la Loire. C'est l'enceinte des marais de Buzet, cartographiée par Deméré en 1692. Vous voyez, c'est le même principe. Voilà l'enceinte. Alors, à la fin du XIIIe siècle, et je ne peux pas m'attarder sur tous les éléments, un très haut niveau d'aménagement hydraulique est atteint. ce premier niveau d'aménagement hydraulique est né d'une dynamique créée par les cisterciens. Mais toutes les abbayes y ont participé au XIIIe siècle. Elles ont compris l'intérêt qu'il y avait à maîtriser l'eau. Bref, tous ces réseaux constituent le premier marais poitevin. Tous ces réseaux hydrauliques constituent le premier marais poitevin, ce qui, au fond, est une préfiguration de l'œuvre des ingénieurs hollandais du XVIIe siècle. Les techniques sont les mêmes. Évidemment, les capitaux seront différents au XVIIe siècle et surtout, on va entrer dans le principe du syndicat, c'est-à-dire d'une gestion collective, alors que là, nous avons une succession de gestion individuelle des eaux. Enfin, le gros problème, c'est que le dessèchement est une chose. Il n'est pas si difficile que ça à faire, encore qu'il suppose beaucoup de main-d'œuvre et un savoir-faire plus pointu qu'on ne pense. Mais une autre chose est l'entretien. Or, les premières difficultés apparaissent à la fin du XIIIe siècle. Les établissements monastiques qui, par la direction assumée des chantiers, ont fait naître le marais, n'avaient pas les moyens d'entretenir tous ces réseaux créés dans un élan qui était un élan économique, démographique, spirituel également chez les cisterciens. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a de très beaux textes pour les dunes à ce propos, mais en Flandre. Bref, vous le voyez, les techniques hydrauliques ici nous amènent à envisager le rôle des moines au plus près des réalités. Le rôle des moines, on va dire, ils ne sont pas globalement des hydrauliciens. Non. Et il ne faut pas s'adonner, pour reprendre une expression de Léon Pressuir, à une dérive pro-monacos, apologétique pro-monacos. Bon, à la Montalembert. Voilà. Donc, non. Mais le rôle des monastères, des abbayes, en tant que qu'organisme, établissement susceptible de coordonner, recruter, investir, doit être quand même souligné. Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup pour ce très beau voyage dans la partie occidentale de l'ancien diocèse de Poitiers, finalement. Donc, nous avons pu voir comment, finalement, les moines ont investi ce territoire. Et je vais laisser la parole à la salle si vous avez quelques questions sur ces aménagements et le rôle des moines.
Oui, ben merci beaucoup pour cette présentation vraiment très, très, très intéressante et puis qui répond en partie aux questions qu'on se pose. Quand on voit l'importance du rôle, donc il y a effectivement un certain nombre de grandes abbayes dans cet espace-là, mais quelle est la part, parce qu'il y a aussi des seigneurs laïcs, quelle est soit la part des seigneurs laïcs dans tout ce mouvement et est-ce que ça a été pris en charge par les abbayes parce que précisément c'était les seuls qui étaient en capacité d'organiser collectivement les choses.
Alors les seigneurs laïcs sont partie prenante d'un certain point de vue, j'aurais dû l'indiquer. Les cisterciens passent des conventions, on va dire, avec eux et les seigneurs laïcs délivrent des licences puisque les terres à desséchés se trouvent dans le ressort de leur seigneurie. Bon. Sur le plan diplomatique, les cisterciens de Moreuil utilisent, puisqu'on voit par per chirographum, des chirographes. Avec le seigneur de Chaillé, il y a plusieurs chirographes. Alors on les a plus. On a de vulgaires copies, très médiocres d'ailleurs, mais il est indiqué, quand il est coupé par chirographum, bon, voilà, il n'y a pas de difficulté. Donc, les seigneurs bénéficient d'un certain point de vue de l'activisme, de l'élan des cisterciens. Et cette petite aristocratie, parce que souvent c'est de la petite aristocratie, est liée aux cisterciens, de très près. Le seigneur de Chaillé est lié aux cisterciens de Moreuil, ce qui n'empêche pas quelques querelles ici ou là. Mais les seigneurs eux-mêmes n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens d'œuvrer à grande échelle, comme le font les établissements monastiques. Les établissements monastiques disposent d'investissements, parce que je pense qu'ils ont recours à du salariat, et disposent d'une capacité à recruter. Bon, les seigneurs laïcs... alors, ils ont des petits marais, ils conservent des petits marais. C'est pour les Véluires ont des petits marais et ont besoin du canal de Beauneuf pour égoutter leurs marais. Alors oui, oui, c'est effectivement, c'est les cisterciens ne sont pas isolés. Hein. Ils œuvrent avec ces... Et puis, alors, dernier aspect, c'est la licence délivrée par Porteclis de Mauzet aux cinq abbayes qui ouvrent les cinq abbayes, le canal des cinq abbayes. Alors, Porteclis de Mauzet, c'est un seigneur d'un plus haut niveau que celui de Chaillé. Et sa licence est en quelque sorte énonce en quelque sorte les modalités d'insertion du canal dans sa seigneurie, dans son ressort. Et il fait très attention à une chose. Il interdit pratiquement, de facto, la circulation de barques, autres que pour les produits du marais, etc., sur le canal des cinq abbés. Parce qu'il a parfaitement compris qu'un grand canal ferait un court-circuit et que son péage de Maran en pâtirait. De même qu'il donne des autorisations de construire des portereaux, des portes, des chutes. C'est une charte extrêmement... Et pour une fois, heureusement qu'il y avait cinq abbayes. Je pense que c'est celle que l'original est... L'original destiné à l'Apsie, puisqu'il se trouve aux archives départementales des Deux-Sèvres. C'est le seul original qui nous reste. Alors, pour les cinq abbés, le seigneur de Chaillé a des préoccupations plus terriennes. Il demande que ses hommes puissent égoutter dans la chenal des abbés. Mais effectivement, il y a un plan technique, mais il y a aussi ce plan d'insertion par rapport au pouvoir seigneurial et par rapport à la société.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Vous avez dit que les cisterciens avaient obligé les autres finalement à réagir, et si j'ai bien compris, c'est parce qu'ils ont ennoyé les terres des autres. Est-ce qu'il y a eu des conflits, du coup ?
Alors, les conflits viennent après, oui. Il y a un conflit au tournant des années 1280. Les habitants de Fontenay-le-Comte, dont le faubourg des Loges est inondé, viennent nuitamment détruire des portereaux au niveau du Langon. Hein, la nuit, pour faire écouler l'eau. Oui, il y a un très très grave conflit de l'eau qui aboutit à l'intervention d'un autre pouvoir, le pouvoir royal. Puisque les paroisses s'adressent au pouvoir royal, tout heureux d'intervenir dans l'affaire, d'autant plus qu'il ne finance pas, il fait financer par les paroisses, et c'est l'Achenal le roi qui est construit avec un contre-beau. Alors, ce qui est très curieux, enfin non, ce qui est très révélateur, c'est que ce canal est construit avec les conseils techniques des abbayes. Nous avons Saint-Michel, nous avons Maizet, nous avons Moreuil. C'est-à-dire les abbayes maintenant distinguées entre cisterciens et bénédictins. Bon, à la fin du XIIIe, ils agissent à peu près pareil. Donc voilà, oui, il y a des conflits d'eau. Et le Maurice de Belleville ébrèche à plusieurs reprises le beau des cisterciens de Moreuil. C'est logique. C'est logique, il faut élargir pour faire couler l'eau.
Est-ce qu'on peut estimer le temps mis justement pour ces canaux, pour la construction?
Ça va quand même très vite. Moreuil va très très vite. Quelques années suffisent à Moreuil pour creuser une trentaine de kilomètres d'achenal.
Ouais, donc c'est quand même.
C'est
un
exploit.
Ouais.
C'est un exploit parce que cette terre humide est très lourde, elle est argileuse. Voilà.
Ça veut dire des capacités humaines aussi derrière pour travailler.
Bien entendu. Et là, on ne connaît rien. On ne sait rien. Mais Yannis Suir, qui a travaillé pour une période plus récente, hein, une très belle thèse à l'école des Chartes d'abord et ensuite à Paris 4, m'a consolé en disant que lui non plus n'avait pas énormément de choses là-dessus sur le travail proprement dit. C'est très très dommage parce qu'on ne sait pas.
Très bien. Mais écoutez, il est 15h30. Nous respectons parfaitement notre planning. Il me reste à vous remercier pour votre intervention. Nous allons maintenant faire une petite pause. Donc, je ne sais pas combien de temps. 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Puis nous reprendrons donc vers 16h45 avec M. Bruant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais effectivement. Merci.
Ce sont des choses parce que vous suivez le téléphone. Présent. Ça, c'est...